Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag. Le Sénat a publié le 23 juin 2026 un rapport de 311 pages intitulé « Mascu, la nouvelle offensive contre les femmes » rédigé par les sénatrices Béatrice Gosselin, Olivia Richard et Laurence Rossignol. Ce document dresse un portrait très alarmant du masculinisme et appelle à renforcer les signalements, la surveillance et les contre-discours. Mais ce rapport est-il vraiment équilibré? Ses définitions sont-elles précises? Sa méthode est-elle rigoureuse? Et surtout, ne risque-t-il pas d'ignorer certains angles morts essentiels, comme la souffrance masculine et la misandrie, tout en favorisant, malgré lui, une forme de stigmatisation? Pour en parler, nous recevons Justine Monet, psychologue. Elle a lu l'intégralité de ce rapport de 311 pages et en propose une analyse critique à la fois sur la forme et sur le fond. Nous allons voir avec elle pourquoi elle considère que ce document présente des biais méthodologiques et conceptuels, comment il aborde, ou plutôt n'aborde pas, la détresse des hommes et quelles réponses elle propose pour lutter efficacement contre les dérives misogynes réelles sans jeter l'opprobre sur l'ensemble des hommes. Eh bien, Justine Monet, merci d'avoir accepté à nouveau mon invitation.
Bonjour, merci à vous pour la nouvelle invitation.
Bien.
C'est toujours un plaisir.
Alors, justement, comme je disais, plaisir partagé, qu'est-ce qui vous a poussé donc, à lire intégralement les 311 pages de ce rapport du Sénat et à en proposer une analyse critique?
En tant que psychologue, je m'intéresse beaucoup aux dynamiques sociales parce que on n'évolue pas en vase clos et je pense qu'on ne peut pas vraiment dissocier l'individu de la société dans laquelle il évolue. Et j'avais entendu une émission de Arte en fait au départ où il parlait justement de ce rapport qui est sorti le 23 juin et comme il parlait d'une menace pour la démocratie et que c'est un sujet qui m'intéresse, et je me suis dit que j'allais aller le lire à la source parce que je préfère toujours aller à la source que de me fier un peu à ce que font les médias des fois de l'information de base. Et au départ, je n'avais pas du tout l'intention d'en faire une critique. Et au fur et à mesure de ma lecture, j'ai constaté qu'il y avait quand même pas mal de soucis méthodologiques et j'ai pris des notes. Et du coup, ça en a fait une critique.
Oui, non, mais c'est. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à se rendre sur votre compte Insta où vous en avez fait un carousel, n'est-ce pas?
Oui, mais le carrousel n'est qu'une synthèse finalement d'une critique beaucoup plus longue parce que c'était compliqué de condenser en 20 pages vu le nombre de soucis méthodologiques qu'on peut relever.
Et Justine, à la lecture, qu'est-ce qui vous a le plus interpellée en tant que psychologue?
Déjà, je précise que ce rapport n'est pas une étude, il n'est pas présenté comme une étude, donc c'est précisé que ce n'est pas une étude, mais il n'empêche que pour moi, c'est plus un plaidoyer idéologique qu'une enquête.
D'accord.
Et vu les conclusions auxquelles il arrive, quand on dit que c'est une menace pour les femmes, pour la démocratie, et qu'on propose des mesures finalement de politique publique très concrètes, je pense qu'on est quand même en droit d'attendre qu'il y ait quand même une forme de rigueur dans la méthode. Et j'ai quand même pu voir beaucoup de biais, des données qui ont été un peu extrapolées ou présentées de façon un peu fallacieuse, des rapprochements qui ne démontrent pas vraiment les liens qu'ils prétendent, et surtout des énormes angles morts, en fait. Vraiment. C'est ce qui m'a interpellée le plus.
Et vous estimez que le rapport donne une définition trop large et trop floue du masculinisme. Pourquoi cette imprécision vous paraît-elle problématique?
Pour moi, c'est la base. Enfin, vraiment, c'est vrai. C'est près le problème principal de ce rapport. Parce que, comment on peut étudier un phénomène si on ne le définit pas de façon précise? Et comment on peut le combattre encore plus? Je veux dire, proposer des mesures sur... une définition qui est floue, c'est C'est compliqué. Et au début du rapport, il présente, je cite, le masculinisme comme un mouvement social et politique qui vise à anéantir le droit des femmes et, in fine, à démanteler notre socle démocratique. Ce qui est une définition assez précise. Le problème, c'est que quelques pages après, ben, cette définition, elle commence à s'élargir. Même le rapport parle d'une nébuleuse de mouvances hétérogènes et évolutives. Et ensuite, ben, finalement, on se retrouve sous un espèce de parasol qui englobe les incels très violents, mais aussi finalement les adeptes de musculation, les influenceurs de développement personnel un peu masculin, les conservateurs religieux, les coachs en séduction, les mouvements de pairs. Il y a vraiment un peu de tout, et tout n'est pas présenté un peu comme à la même échelle, hein, je veux dire, ils font des nuances de gravité, mais tout est présenté un peu comme une porte d'entrée vers le masculinisme. Mais ben, du coup, ça devient compliqué parce que je veux dire, si on a, comment on peut justifier des mesures si on ne peut pas mettre, je veux dire, l'adepte de musculation et le masculiniste terroriste au même niveau, je veux dire. Donc, et même le rapport lui-même précise que ces groupes n'ont pas les mêmes objectifs ni une idéologie cohérente. Le rapport lui-même dit que le masculinisme n'a pas de définition légale pour l'instant. Donc, cette définition n'est pas opérationnelle, c'est tout. Et quand
Justement.
on prétend qu'on doit signaler, surveiller, prévenir de la radicalisation, ben c'est problématique.
Ah oui, effectivement, oui. Justine Monet, juste une petite pause, un petit message pour nos auditeurs.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Donc, nous sommes toujours avec Justine Monet, psychologue. Vous critiquez également la méthode employée, notamment la faible place accordée au point de vue contradictoire. En quoi cela fragilise-t-il le diagnostic posé par le rapport?
Ben, le rapport présente un travail considérable, hein. Ils ont fait des centaines d'heures d'audition. Ils ont auditionné des centaines de personnes et ils ont fait vraiment un grand travail. Le problème, c'est que ce nombre ne représente pas la pluralité des points de vue. Honnêtement, je n'ai trouvé. Il y en a peut-être, je ne sais pas, dans la liste, mais moi, je n'ai pas remarqué de véritable contradicteur du cadre idéologique. Ils ont tous plus ou moins le même point de vue. Et ce que je trouve quand même dingue, c'est qu'en 7 mois de travail, ils n'ont pas trouvé le temps d'interviewer une seule personne masculiniste elle-même. Et je ne dis pas ça pour valider leur point de vue ou quoi que ce soit, je veux dire, mais au moins de les écouter, d'écouter vraiment leur motivation, de comprendre leur trajectoire. Parce que si on cherche à comprendre un phénomène, il faut aller directement vers les personnes concernées, pas uniquement se baser sur des théories ou des livres ou
Bien
des choses
sûr.
comme ça, aller au contact et chercher réellement à comprendre, pas uniquement à valider finalement son hypothèse.
Et le vocabulaire très alarmiste utilisé dès le titre et l'introduction hein, vous donne-t-il le sentiment que la conclusion était déjà en partie écrite avant les auditions?
Alors après, je ne connais pas les intentions des personnes qui ont écrit ce rapport, hein. Donc ce que je dis doit être pris avec une pointe de sel, je ne sais pas comment on dit en français.
Parcimonie.
Mais ce qui me dérange, ce n'est même pas le fait que le vocabulaire soit excessif, mais c'est surtout que, ben en fait, quand on parle ils parlent de poison, de marécage, de
C'est vrai.
vagues de submersion, de menaces pour la démocratie, de. Enfin voilà, il y a vraiment un vocabulaire de guerre, de contamination, et ça influence la perception du phénomène. Et ça donne finalement une impression que qu'il y a une ampleur énorme qui a été mesurée, qui a été identifiée, et puis qui est extrêmement fréquent, qui est omniprésent, sauf, et qui finalement justifie les mesures proposées. Parce qu'à partir du moment où on a un danger imminent, énorme, eh ben, finalement, les gens sont beaucoup plus facilement convaincus d'adopter des mesures assez fortes. Et je ne dis pas que le danger n'existe pas, attention.
Bien
C'est
sûr.
simplement que la façon dont il est présenté, son ampleur est pour moi disproportionnée. Et
D'accord.
Finalement, ces chiffres, enfin, le vocabulaire, ce langage ne fait pas seulement accompagner les conclusions, il prépare le lecteur à les accepter, quoi.
Et en tant que psychologue, comment expliquez-vous, Justine, que certains jeunes hommes soient attirés par les discours masculinistes et qu'est-ce que ces discours viennent leur apporter?
Bon, évidemment, il n'y a pas un profil unique, mais ça, même le rapport le dit, en général, les hommes qui sont attirés par ce genre de discours sont des personnes qui sont en souffrance, souvent qui souffrent de solitude, qui ont vécu des échecs affectifs, qui ont une faible estime d'eux-mêmes, un sentiment de déclassement, et une sensation, finalement, une grande incertitude autour de leur identité et de leur place dans la société. Et aujourd'hui, quand on a des injonctions quand même très fortes à se déconstruire pour les hommes, beaucoup de discours sur la masculinité toxique, donc finalement, ces jeunes hommes sont un peu en manque de modèles, de repères, et ces discours présentent une forme de solution simple à des problèmes complexes. En plus, il leur permet aussi un peu de se déresponsabiliser, de se poser en victime et en même temps en héros, parce que ça leur promet de reprendre le pouvoir. Donc c'est très très attirant pour un jeune qui est perdu. Et finalement, ça prend une place qui a été un peu délaissée aussi par la déconstruction, où là, finalement, les personnes... Les influenceurs masculinistes mal intentionnés, enfin, peut-être qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils sont peut-être très, très sérieux dans leur démarche,
dire.
Mais voilà, ils prennent cette place, mais il n'empêche que c'est un business aussi. Et ces personnes-là n'ont aucun intérêt que ces jeunes aillent mieux, finalement, parce que c'est un peu aussi leur business. Et ce qui manque, finalement, c'est vraiment... C'est d'avoir des modèles de masculinité positive, pas seulement que ces jeunes, on leur dise qu'est-ce qu'ils ne doivent pas être, mais de leur donner des modèles pour se construire, de valoriser une masculinité basée sur la force, mais pas la domination, le courage, la loyauté, etc. Et pas forcément uniquement aussi montrer une forme d'homme déconstruit, un peu dénué de toute masculinité tout court ou indifférencié. Et donc, je pense que les masculinistes ont bien compris qu'il y avait un peu une faille dans laquelle ils ont pu s'insérer.
Justine Monnet, vous reprochez au rapport de quasiment ignorer la misandrie et les généralisations hostiles envers les hommes, tout en interrogeant très peu certains discours féministes ou certaines évolutions sociales auxquelles ces hommes disent réagir. Pourquoi ces angles morts vous paraissent-ils importants pour comprendre réellement le phénomène?
Alors, j'ai fait une recherche dans le rapport, j'ai cherché les occurrences. Le mot misandrie apparaît 0 fois dans tout le rapport. Alors que la misogynie est évidemment omniprésente. Et pour moi, c'est un angle mort majeur. Parce que, la misandrie, elle existe. Contrairement à ce qu'on entend dans certains discours, parce que souvent, quand je parle de misandrie, notamment sur mes réseaux sociaux, je reçois systématiquement des commentaires comme quoi la misandrie n'existerait pas parce que ce n'est qu'une réaction à la misogynie. Mais pour moi, c'est complètement stupide, parce que finalement, si on admet que la misandrie, donc la haine des hommes, est une réaction à la haine des femmes, eh ben, il faut peut-être penser que finalement la haine des hommes, que la haine des femmes va être une réaction à la haine des hommes. Et donc c'est un phénomène qui s'alimente mutuellement. Et c'est pas parce que la misogynie et la misandrie ne sont pas parfaitement symétriques en termes d'ampleur, de conséquences, qu'on doit nier un phénomène. Je veux dire, la misandrie existe. Et puis aussi, on me dit souvent, oui, mais contrairement à la misogynie, la misandrie n'est pas systémique. Ok, c'est probablement le cas, je ne le conteste pas. Il n'empêche qu'un phénomène ne devient pas systémique du jour au lendemain, il le devient quand on banalise, quand on normalise un discours et qu'on le laisse s'installer. Et ça n'est absolument pas mentionné dans le rapport. Et par rapport au féminisme, le rapport note que de nombreux masculinistes ont le sentiment que le féminisme va trop loin et elle présente ça comme le mythe fondateur du masculinisme. Lorsqu'il parle de la crise de la masculinité, le rapport le présente comme une imposture parce que la crise de la masculinité existerait depuis très longtemps. Donc, sous prétexte qu'un phénomène existe depuis longtemps, il n'existe pas. Ça me paraît un peu particulier comme justification, mais enfin bon, soit. Mais il n'empêche que le fait que peut-être, certes, je ne valide pas le fait que le féministe a été trop loin, etc. Enfin, je sais pas, mais il n'est jamais réellement interrogé. Si, il y a peut-être quand même une part de vérité derrière ça, où le féminisme est en fait présenté selon ses intentions. Il a des bonnes intentions, il cherche l'égalité, etc. Alors que le masculinisme, lui, il est plutôt traité par ses effets, etc. Il faudrait les traiter au même titre, finalement, parce que le féminisme, sous le féminisme, il y a plein de courants actuellement. Hein. Certains courants, pour moi, ne sont
un
plus
peu
du
beaucoup,
féminisme,
même,
mais de la misandrie.
oui. Vous êtes d'accord avec moi, un peu. Un peu beaucoup d'ailleurs, un peu trop même, non?
Oui, clairement. Et je veux dire, ça dessert le féminisme, le vrai féminisme qui recherche l'égalité. Je veux dire, il est desservi par ces personnes qui recherchent la revanche. Et pour moi, c'est pas mieux que le masculinisme en soi. Alors oui, peut-être qu'on va me dire, ça ne tue pas. Mais bon, ça ne tue peut-être pas directement, mais il n'empêche que le taux de suicide des hommes est nettement plus élevé que celui des femmes. Je veux dire, 80% des suicides, c'est des hommes. Donc, il y a quand même un angle un peu vraiment. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de ne pas remettre en question leur idéologie, vraiment. À aucun moment, c'est interrogé, c'est remis en question. Et c'est quand même assez fou, je trouve, de ne pas vouloir le voir. En fait, là, c'est vraiment du déni quand même.
Et vous soulignez aussi que la détresse masculine est souvent présentée comme un facteur de risque de radicalisation. Quel problème cette manière de regarder la souffrance des hommes peut-elle poser?
Je pense que ça pose problème parce que dans le sens où la souffrance psychique des hommes, elle est déjà très stigmatisée. Et beaucoup d'hommes, justement aussi à cause des injonctions sociales, ont appris à ne pas se plaindre, à être forts, à ne pas demander d'aide. Et c'est aussi probablement beaucoup pour ça hein, que le taux de suicide est aussi élevé. Donc c'est déjà compliqué pour eux de parler, de s'exprimer. Et si maintenant la souffrance, elle est présentée vraiment comme finalement un facteur de risque et qu'on propose de les écouter pour repérer des signes de radicalisation, ça va encore plus les décourager à parler finalement, parce que une personne finalement qui est déprimée ou comme ça, elle pourrait craindre que il va simplement passer à une forme d'examen de repérage
Ouais,
de
c'est
signes de
ça.
radicalisation plutôt que simplement de traiter la souffrance masculine en tant que telle comme un danger, non pas forcément pour la société, mais pour lui-même avant tout. Donc je pense que c'est vraiment important de pouvoir ne pas uniquement traiter ce thème de la souffrance masculine uniquement sous le prisme de ça peut devenir un danger pour la société. Avant tout, les hommes qui souffrent sont un danger pour eux-mêmes. Et c'est important de les encourager à parler et de les écouter, pas pour repérer des signes de radicalisation, mais simplement pour les comprendre.
Et Justine, le rapport établit un lien entre masculinisme et violences faites aux femmes. Pourquoi est-il important de distinguer l'existence de ces violences, de l'adhésion idéologique de leurs auteurs?
Les violences qui sont faites aux femmes sont extrêmement graves et doivent être combattues fermement. Leur ampleur est très inquiétante. Le problème étant que de présenter ces chiffres, finalement, pour illustrer le masculinisme. Or, un féminicide n'est pas forcément motivé par une idéologie masculiniste. Les causes sont multifactorielles. Et pour établir un lien idéologique, il faut l'étudier. Il faut pouvoir examiner les croyances de l'auteur, les motivations, les appartenances idéologiques de la personne à des groupes, etc. Et la plupart du temps, ce n'est pas fait. Donc, je veux dire, on ne peut pas dire qu'un féminicide est masculiniste par essence. D'ailleurs, à un moment donné, la question est même posée de savoir si chaque féminicide pourrait être qualifié de masculiniste. Mais alors, à ce moment-là, ça devient aussi un raisonnement circulaire. Parce que si la violence est utilisée pour prouver le masculinisme, et qu'ensuite le masculinisme est utilisé pour expliquer la violence,
Encore une fois, oui, c'est...
Voilà, et donc dans certains, enfin, je veux mesurer une violence ne suffit pas à démontrer la cause idéologique, et je pense que ces chiffres sont surtout utilisés pour gonfler un peu l'ampleur du phénomène aussi. Parce
D'accord.
que finalement, des actes incels ou comme ça en France,
Ah ouais, comme j'en
il y en a
parlais
eu
tout à l'heure.
deux qui ont été déjoués
C'est ça.
en 2024 et 2025.
Tout à fait. Et le rapport propose davantage de signalement, hein, de surveillance et de contre-discours. Pourquoi craignez-vous que certaines de ces mesures produisent des effets boomerang?
Ben, le rapport propose 24 mesures qui sont sur plusieurs axes, etc. Et parmi ces mesures, il y a beaucoup qui touchent un peu à la surveillance sur les réseaux sociaux, etc. Le problème qu'il y a, c'est que finalement, avec ces mesures, déjà, il y a une forme de phénomène de réactance, c'est-à-dire que plus on essaie de contester un peu une opinion, plus la personne va se renforcer. Un peu, enfin, je veux dire, ça a tendance à renforcer l'opinion qui est combattue. En plus, ça augmente un peu la stigmatisation. Et puis finalement, ça confirme les récits de ces masculinistes qui pourraient dire, voyez, la société nous rejette, nous stigmatise, etc., machin. Ça confirme leur discours, ça confirme leur récit de persécution. En plus, finalement, ça risque juste de déplacer ces discours vers des espaces fermés où ce sera
Voilà.
encore plus radical. Et ce que je trouve aussi assez ironique, c'est que finalement, parmi les mesures, elle propose de financer les associations féministes pour être responsable du contre-discours, sachant que les masculinistes rejettent en bloc le féminisme. Je doute que des acteurs féministes sont les mieux placés pour
Effectivement.
finalement amener un contre-discours qui sera bien entendu, quoi, en fait. Je ne pense pas que ce sera les meilleures messagères. Et après, il y a aussi finalement un risque aussi de censure. Il y a quand même un risque pour la liberté d'expression. Parce que comme on disait avant, finalement, si sous le terme de masculinisme, on met finalement, il n'y a pas vraiment de frontière, la définition est assez
C'est
floue.
ça.
Comment est-ce qu'elles veulent modérer sur les réseaux sociaux, etc.? Parce que si toute critique antiféministe devient masculiniste et devient une forme de censure, ça devient aussi très problématique, selon moi. Et c'est un vrai risque pour la liberté d'expression.
Très juste. Et alors, il nous reste, vous avez le temps, il vous reste plutôt 2, 3 minutes. Quelle serait, selon vous, une réponse à la fois ferme, efficace et juste, hein, face aux dérives misogynes réelles, sans stigmatiser l'ensemble des hommes? Vous avez 2 minutes, hein,
Déjà,
c'est
je
bon.
pense que c'est vraiment plusieurs étapes. Déjà, premièrement,
Oui.
définir précisément les termes et ensuite distinguer aussi ce qui relève d'une opinion, d'une provocation, d'un harcèlement, d'une menace, d'un véritable projet violent, parce que tout ne demande pas les mêmes mesures. Et ensuite, justement, il faut sanctionner proportionnellement.
C'est ça.
C'est important de pouvoir vraiment lutter contre le harcèlement, les appels à la violence, etc., mais de façon proportionnelle aux actes.
Mais
Et
qui n'est pas le, ce qui n'est pas le cas selon vous.
dans ce qui est préconisé, pas vraiment. Ça mériterait d'être précisé, je pense. En fait, je
D'accord.
pense que le rapport mériterait d'être refait, si vous voulez mon avis, mais après,
Non, mais
ça
je.
n'engage que moi. Et après, dans un second temps, je pense que c'est important de pouvoir créer des espaces sécurisants, confidentiels, non idéologiques pour les hommes. Hein, vraiment, c'est des espaces où ils peuvent s'exprimer librement, sans craindre d'être jugés, d'être soupçonné de misogynie ou d'être soumis à une déconstruction obligatoire, etc. Vraiment un endroit où ils peuvent être écoutés, où on cherche à les comprendre, etc. Où on les aide aussi à développer leurs compétences relationnelles. Parce que souvent aussi ces hommes sont un peu en détresse affective. Donc de les aider à développer leurs compétences relationnelles, leur capacité à réguler leurs émotions, etc. Leur confiance en eux. Et après, je pense que c'est aussi important de pouvoir les atteindre où ils sont, enfin d'adopter un langage adapté
Aussi.
à eux. Et voilà, après, je pense qu'il y a vraiment ces deux axes, mais qui ne sont pas les mêmes. Enfin, je veux dire, lutter contre le masculinisme doit rester finalement limité au masculinisme, mais pour ça, il faut pouvoir le définir.
En 30 secondes, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Justine Monet?
Je veux juste rajouter que pour moi, le danger par rapport à ce rapport, finalement, c'est que c'est pas seulement par rapport aux hommes, mais c'est aussi pour les femmes, en fait. Parce qu'ils risquent simplement
Effectivement.
de renforcer le phénomène qu'ils prétendent combattre et pas protéger les femmes.
Justine Monet, écoutez, en tout cas, merci infiniment. C'est passé très vite hein, pour cette
Effectivement,
analyse.
comme
Ah bah
d'habitude.
oui. Pour cette analyse claire, nuancée et courageuse, hein, vous nous avez rappelé quelque chose d'essentiel. On ne peut pas lutter efficacement contre les dérives misogynes en ignorant la détresse réelle de nombreux hommes, en caricaturant leurs questionnements ou en adoptant des définitions si larges qu'elles finissent par stigmatiser, n'est-ce pas, une génération entière. Un rapport sénatorial qui vise à protéger les femmes, mais qui, par ses biais, son alarmisme et ses angles morts, risque d'alimenter le ressentiment qu'il prétend combattre, pose un vrai problème démocratique et humain. Hein. La voie que vous défendez, ferme sur les violences, rigoureuse sur les faits et humaine sur la souffrance, est certainement plus difficile à tenir, mais elle est aussi la seule qui soit durable et juste, n'est-ce pas?
Je pense.
Merci Justine, j'espère vous revoir
Merci
très
à vous.
bientôt, en tout cas pour ce regard
Avec
de
plaisir.
psychologue qui manquait cruellement dans le débat, disons-le, hein. Chers auditeurs, nous vous encourageons et je vous encourage donc à lire ce rapport par vous-même, à vous forger votre propre opinion et surtout à vous rendre sur la page Instagram de Justine Monet. La souffrance n'a pas de genre et la vérité non plus. À mercredi prochain et bonne semaine.